Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Arnaud Coustillère, vous êtes le directeur du pôle Excellence Cyber, vous avez commandé plusieurs navires de combat, vous avez contribué à la création de la cyberdéfense du ministère des Armées dont vous avez été le premier comme cyber, c'est comme ça que ça s'appelle, c'était de 2011 à 2017, et vous publiez aujourd'hui avec Aude Leroy, Soldats de la cyberguerre aux éditions Talendier, dans lequel vous racontez l'histoire de cette création de la cyberdéfense militaire, etc. La façon dont on s'est approprié en France des outils pour lutter contre des puissances étrangères. Et on va le voir avec l'actualité du jour, puisque depuis dimanche, plusieurs services de l'État font l'objet d'attaques informatiques avec une intensité inédite, c'est ce que dit Matignon. Plusieurs ministères ont été touchés. Qu'en savez-vous ?
Bon, tout d'abord, moi, je suis très heureux d'être là pour présenter un peu ce que j'ai fait, mon livre, cette aventure humaine. Bon, je ne suis plus en fonction, donc c'est difficile de me prononcer sur.
Vous savez ce qu'on a à faire.
Oui, on sait ce qu'on a à faire. En fait, quand vous avez des attaques informatiques, vous avez deux types d'attaques informatiques. Vous avez les attaques par pénétration, donc on rentre à l'intérieur d'un système, on y vole de l'information, de l'espionnage, on fausse l'information, ou alors on sabote le système. Là, on est dans un autre type d'attaque, d'après ce que j'ai lu, qui s'appelle les attaques par déni de service. Donc, vous adressez à un système, et vous lui envoyez un nombre très 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 important de requêtes qui fait du coup il ne fonctionne plus.
Et c'est une façon de saturer le système.
Oui, vous saturez le système. Donc c'est puissance de calcul contre puissance de calcul. Visiblement, ils nous disent un montant à quelque chose de façon de très inédit. Donc ça veut dire que la puissance de calcul monopolisée a dû être extrêmement forte parce que c'est un réseau interministériel de l'État. Donc il est quand même bien protégé. Et vous avez des boucliers contre ce genre de type d'attaque en déni de service. Voilà.
Alors ministères effectivement ont été concernés, notamment le ministère du Travail qui avait son réseau informatique HS. On peut dire que cette attaque a été revendiquée par un groupe Anonymous Soudan qui soutient la Russie. Là, le but, ce n'est pas de demander des rançons, c'est une démonstration de force.
Ce qui est amusant, je trouve, qui me rappelle quasiment 2015,
ouais.
C'est amusant, c'est de voir que l'on a un groupe islamiste d'obédience terroriste.
D'accord.
Islamique qui revendique, alors que moi, dans ma carrière, j'ai jamais vu de groupe islamique faire du déni de service. Ils font de la défacement de sites, ils font de la propagande plus évoluée. Et très souvent, ce genre de groupe était, en fait, de russophones ou affiliés aux Russes. Donc, c'est le genre de choses. Quand on revient un peu en 2015, vous avez eu l'affaire TV5 Monde. TV5 Monde, c'était quelque chose d'intéressant, puisque c'était revendiqué par un groupe islamiste, Cybercalifate, très lié à la Syrie, donc aux Russes, qui avait prétendu avoir volé des données de militaires français, absolument pas,
ouais.
Et qui avait saboté une partie de TV5. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prenait place exactement au moment où le président de l'époque avait annulé la vente du Mistral à la Russie. Donc typiquement, c'était un avertissement.
Là, c'est le cas ou pas, à votre avis? Parce qu'on est dans un contexte particulier.
Oui,
on a un chef de l'État qui dit... Pardonnez-moi, je termine ma question. Où on a un chef de l'État qui dit qu'il pourrait envoyer des troupes au sol en Ukraine. Est-ce que ça pourrait être identifié comme une réplique cyber à des déclarations du
président? Non, mais réplique cyber, je pense qu'il ne faut pas mettre la barre trop. Aujourd'hui, trois jours avant, vous avez eu des avions français qui ont intercepté des avions russes, avions russes qui ont intercepté. Donc on est dans une logique de harcèlement. Mais cette logique de harcèlement avec les Russes n'est pas nouvelle. Moi, dans ma carrière, quand j'ai commencé à naviguer dans les années 84-85, on passait son temps à jouer au jeu du chat et de la souris avec les navires russes. Donc on est dans un harcèlement où montrent leur puissance. Je suis là, je suis capable de faire quelque chose chez toi.
Vous dites on n'a pas changé de calibre, en gros, c'est ce que vous nous expliquez, alors que ce qu'on entend de la part du gouvernement, c'est que justement, la France est désormais une cible de la guerre informationnelle et des cyberattaques de la part de la Russie.
Oui, je me suis mal exprimé. Je veux dire que c'est une attaque qui reste en dessous d'un seuil. C'est une attaque qui fait tomber pendant quelques heures des sites. Donc
C'est pas grave.
Ça reste du niveau du harcèlement. Je suis là, je te montre que je suis capable de faire des choses, je suis capable éventuellement de te faire plus mal, mais je ne le fais pas à ce stade. Oui, la France, je pense, est une cible. D'abord, il faut considérer que le président Poutine parle en partie à sa population. Donc, il montrait qu'il est fort à l'extérieur, pour ça qu'il attaque notre président régulièrement. Deuxième chose, la France est quand même un symbole. Le président Poutine aime beaucoup l'histoire, donc la Grande Guerre, mais aussi les guerres napoléoniennes. C'est le seul Européen qui est allé jusqu'à Moscou. Donc, dans la symbolique russe, il est important. Après, ça fragilise le couple franco-allemand, donc l'Europe.
Alors, et puis la on France va revenir, si vous le voulez bien, à pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous sortez un livre, bien sûr, mais vous avez été le premier comme cyber. C'est comme ça qu'on dit. Commandement cyber, ça a été créé par Jean-Yves Le Drian, qui préface d'ailleurs votre livre. Il parle de quatrième armée, 3200 experts pour mener la riposte en cas de cyberattaque. On est en février 2016. C'est quoi un comme cyber? C'était quoi votre rôle à l'époque?
À l'époque, moi, j'ai pris ce dossier en 2008, je l'ai rendu en 2017 et on a fabriqué pied à pied un commandement, effectivement, qui est devenu compétent pour mener toutes les opérations défensives, offensives et de protection dans l'espace numérique. Donc on a commencé à partir de la petite phrase du livre blanc 2008, le chef d'état-major des armées déploiera une capacité offensive en appui des opérations militaires. Ouais. Ensuite, on a mis le défensif, on a mis la contre-propagande.
Je pense qu'il y a des gens qui vous regardent et qui ont du mal à vous suivre, pardonnez-moi. Ouais. Comme cyber, c'est quoi? C'est quoi, pardon, un soldat? On voit bien à quoi ça peut ressembler, mais un soldat cyber, ça ressemble à quoi?
C'est l'espace, c'est combattre dans l'espace numérique, cet espace qui a envahi nos vies, qui est dans nos smartphones, qui est dans les sites Internet, qui a été créé à partir du moment où l'Internet s'est déployé partout dans le monde. Donc, tout le monde peut potentiellement parler avec tout le monde. Donc vous avez un espace qui a un peu gommé les frontières et à partir duquel on peut agir chez les adversaires à part distance en étant plus ou moins identifié.
On est bon. Les Français, aujourd'hui, on est bon pour se défendre. On est sorti d'une forme de naïveté. On a mis les moyens. On s'est collaboré avec d'autres puissances.
Je vais m'exprimer que sur le ministère des Armées. Est-ce qu'on a mis les moyens? La réponse est oui.
D'accord.
Est-ce qu'on est capable de faire des choses en appui offensif? La réponse est oui et on l'a fait.
C'est important.
Et est-ce que l'on est bon en matière de défense? La question n'est pas d'être bon, mais est-ce que je suis prêt par rapport au niveau de menace au moment où on va m'attaquer?
Quand vous dites offensif, c'est important, disais-je, parce que pendant des années, on a répondu aux attaques. Aujourd'hui, on est capable de faire une offensive sur le terrain du cyber?
Oui, totalement. C'est bien l'ambition fixée par le livre blanc 2008, qui est de développer une capacité d'appui aux opérations militaires capable de provoquer les mêmes effets qu'une bombe. Neutraliser un système radar, neutraliser un système de commandement, neutraliser une batterie de canon. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Soldats de la cyberguerre ». Parce que mon cadre d'action, c'est le militaire en uniforme. Et avec un cadre juridique qui est très clair, qui est le cadre droit des conflits armés, le droit international humanitaire et le code pénal.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire des offensives cyber pour faire de la désinformation, c'est pas tellement les codes des démocraties, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des choses qu'on ne fait pas, nous, que font par exemple la Chine, la Russie.
Oui, après on rentre, donc, ça, l'arme offensive, c'est l'arme offensive technique. Après, il y a une capacité d'action qui est une capacité de contre-propagande. Mm-hmm. Effectivement, là aussi, le droit est très important parce qu'une démocratie ne peut pas se comporter comme une autocratie.
C'est ça, c'est ce que vous expliquez très bien. Dans ce livre, vous revenez sur le 11 septembre, vous dites le public à travers le monde réalise que la cybermenace et le cyberterrorisme sont potentiellement dangereux avec des implications physiques. Vous revenez aussi sur 2015, vous l'avez dit rapidement, c'est là que le monde bascule entièrement. Pourquoi est-ce que 2015, c'est la bascule pour vous?
C'est la bascule pour moi 2015 parce qu'on était prêts. C'est-à-dire qu'on avait construit une capacité, je veux dire, offensive, défensive, et on avait commencé dès 2013 à mettre des structures de contre-propagande. Et 2015, c'est un peu une sidération comme était 2002-2001. C'est parce que c'est sur le territoire français, des journalistes. Donc la guerre est chez nous. On a eu les affaires Mera, dont on n'avait pas vraiment compris toute la complexité et la perversité de cette propagande. Et 2015, c'est au cœur de chez nous. Et puis 2015, il y a eu quand même peu de temps, tout de suite après les attentats, une grande vague d'attaques terroristes contre les sites, pas techniques, d'attaques, mais on défaçait les sites, plus de 15 000 sites français, pizzeria, ministère des Armées ou différents autres, retrouvaient sur leur site une image djihadiste. Donc c'était un peu une prise de conscience et nous on était prêts. Voilà.
C'est quoi le risque auquel se prépare le com-cyber, c'est-à-dire le risque ultime quand on parle de la guerre cyber? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui disent « Bon, très bien, la guerre cyber, c'est une guerre sans victimes. »
Une crise cyber, si elle n'est pas jugulée, a très très vite des effets dans le... Imaginez une attaque contre un hôpital
Il y en a déjà eu.
Si vous bloquez tous les systèmes, vous attaquez 2-3 hôpitaux parisiens dans les services néonatales, par exemple, parce que c'est une attaque qui a eu lieu il y a quelques jours, immédiatement, vous avez des morts.
Le scénario noir, c'est lequel?
Le chaos.
C'est le chaos.
C'est le chaos. Mais d'un autre côté, les nations sont quand même interdépendantes. Ouais. Et une attaque cyber en droit des conflits armés, si elle a les mêmes effets qu'une attaque normale par bombe, les nations ont le droit de se défendre. Voilà, donc c'est pour ça que la guerre cyber me paraît, moi, très adaptée à la phase de crise. On n'est pas encore en guerre ouverte pour déstabiliser, désorganiser.
Merci beaucoup Arnaud Coustillière. Je rappelle que vous avez écrit ce livre avec Aude Leroy. Ça s'appelle Soldats de la cyberguerre. Un pionnier raconte la cyberdéfense française. C'est vrai qu'à l'époque, quand vous parliez de ces sujets-là, c'était très en amont de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre quotidien. Merci beaucoup. C'est publié chez Talendier. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On va revenir aussi d'une certaine manière sur la guerre informationnelle avec, vous en avez entendu parler, cette photo trafiquée de Kate Middleton qui met en émoi la Grande-Bretagne et pas seulement. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.